Il faut considérer ces 25 années de guerre, de troubles. Sur les ruines du Tchad, nous sommes en train de reconstruire ce pays, sauver ce pays dans son unité, dans son intégrité territoriale. Redonner à ce pays la paix. Et vous voulez qu'on se permette le luxe, c'est mon opinion, de rouvrir encore la porte aux éléments de dislocation du Tchad. Nous avons vécu ce qu'on appelle le régime de tendance. Au fond, c'est quoi le régime de tendance? C'est le multipartisme. Vous êtes d'accord? Et sur le plan de principe, qui vous dit que le système multiparti est le plus démocratique, le plus libre? Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas parce qu'il y a des partis à droite, à gauche, qu'il y a nécessairement liberté et démocratie. C'est une chose à prouver sur le plan historique, sur le plan des principes. Vous passez tout votre temps à voter, mais il y a derrière vous toujours un grand électeur qui décide le sort des élections, c'est l'argent.
Alors vous venez d'entendre Hissène Habré qui a été président du Tchad, soutenu par la France, jusqu'au discours de la Baule de François Mitterrand, où justement Mitterrand prônait la démocratie au Tchad et en Afrique en particulier. Et juste après ce discours, Hissène Habré s'est retrouvé lâché par les Français et le nouveau président, Idriss Déby, est venu au pouvoir. Aujourd'hui, il y a des élections au Tchad qui viennent d'avoir eu lieu. Durant ces élections, il y a eu une tentative de coup d'État, et les Français étaient plus ou moins impliqués, puisqu'il y a eu, comme on dit, des coups de semence. Donc aujourd'hui, la situation au Tchad est assez compliquée, et pour cela, on a décidé de rencontrer une spécialiste de la situation militaire au Tchad, mais aussi un ami tchadien, Abba, qui est étudiant et qui habite en France depuis 4 ans. Donc pour commencer, on s'est demandé, et on a commencé du tout début, parce que la situation au Tchad est excessivement compliquée. Donc la première question était, quelle est la situation géographique et socio-économique du Tchad?
Donc le Tchad est un pays d'Afrique centrale, situé au voisinage du Cameroun, du Nigeria et du Niger à l'ouest, le Soudan à l'est, au sud la République centrafricaine et au nord la Libye. Les atouts économiques, depuis quelques années, il y a le pétrole. Initialement, les gens vivaient de l'agriculture et de l'élevage, qui, au dire des dirigeants du pays, étaient les deux mamelles du pays, de l'économie nationale. Donc, essentiellement, le coton pour les productions de rente, et l'élevage bovine notamment. Au niveau des populations dans le nord, dans le grand nord disons, et dans le centre et dans l'est, c'est une population à majorité musulmane, et dans le sud, une population disons animiste et chrétienne.
Et la répartition entre musulmans et animistes chrétiens, c'est à peu près quoi?
Officiellement, il y a 52% de musulmans, environ une trentaine de pourcents de chrétiens et le reste des animistes.
En présentant souvent le Tchad en disant que les deux populations, chrétiennes et musulmanes, sont opposées, qu'il y a un conflit nord-sud, comme on dit souvent au Tchad, en fait, il faut voir qu'il y a plusieurs clivages qui, justement, ne se superposent pas. Parce qu'on a d'un côté des populations sédentaires, de l'autre des populations nomades, des populations chrétiennes et des populations musulmanes, des populations qui pratiquent l'agriculture et d'autres l'élevage. Et on a souvent tendance à assimiler les nordistes musulmans éleveurs d'un côté et de l'autre les chrétiens sudistes agriculteurs. Or, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a des sudistes agriculteurs qui sont chrétiens. Il y a dans le centre du pays la population Adjaraï qui est à majorité musulmane mais qui est sédentaire et qui pratique surtout l'agriculture. Et même parmi les Adjaraï, on retrouve à la fois des chrétiens et des musulmans. Et souvent, dans l'image coloniale du Tchad, on a cette opposition entre une population sudiste qui aurait été christianisée et qui serait par nature plus proche des intérêts français face à une population musulmane qui était scolarisée beaucoup plus tard et qui serait plus réticente à l'influence française. Or, on voit qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'on ne peut pas rester dans cette vision nord-sud du Tchad. Et qu'en tout cas, ce n'est pas du tout une grille de lecture qui permet de comprendre les problèmes actuels et qui permet de comprendre les conflits du pays depuis l'indépendance en 1960.
Justement, tu parlais de l'héritage colonial. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle était la situation à l'époque de la colonisation française?
À ma connaissance, au vu des données historiques qu'il y avait, tous les postes de direction étaient occupés par des colons et les postes de subalternes étaient réservés aux locaux.
Bah, les colons ont introduit la culture du coton dans le sud du pays pour en faire une culture de rente. Et ils ont donc christianisé le sud du pays et aussi introduit l'école, et une école qui était beaucoup plus présente dans le sud que dans le nord du pays. Et ce qui est important pour le Tchad, c'est de voir que après l'indépendance en 1960, les coopérants français sont restés longtemps et ont été très présents. Par exemple, l'ENAM, l'École nationale d'administration et de la magistrature, a pendant longtemps été dirigée par un Français. Et de la même manière, quand je faisais des entretiens au Tchad, la plupart des militaires me disaient « mais dans les années 70, tous nos chefs, tous nos formateurs étaient aussi des Français ». On n'est pas dans la même situation qu'en Côte d'Ivoire, où il y a eu une très forte présence française en nombre d'expatriés. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'expatriés français au Tchad qu'en Côte d'Ivoire, mais cette présence pose également problème, parce que c'est avant tout une présence militaire, avec plus de 1000 militaires français, qui très souvent ne se comportent pas comme ils le devraient, donc ce qui crée un fort ressentiment parmi la population tchadienne. Mais on n'est quand même pas dans une situation, dans le même scénario qu'en Côte d'Ivoire.
Et justement, quelle était l'image des colons pour les Tchadiens ?
C'est partagé. Il y a des gens qui regrettent la période coloniale au vu de ce qui se passe après. Mais les gens qui ont vécu les travaux du chemin de fer Congo-Séyan, les travaux forcés avec l'implantation des champs de coton, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient. Donc, bon, globalement, comme dans la plupart des cas, le colon n'est pas très très bien vu.
Enseigne l'histoire de cette colonisation, de quelle façon il y a une attention de la part du gouvernement, de l'État, à revenir justement sur ce passé colonial.
Je ne sais pas si c'est une volonté délibérée, mais je me rappelle de mes cours d'histoire et on nous l'a très bien fait remarquer, toute l'évolution, parce que les programmes qu'on enseigne ne sont pas forcément les mêmes qu'on soit dans le public ou dans le privé, ou ça dépend de la région où on se trouve. Je pense qu'il y a une ligne directrice générale, et après les anciens font adaptent à leur sauce en fait. Et moi, de mon cursus au collège déjà, on nous a très bien expliqué les démarches, l'introduction de la culture du coton, le travail, les travaux forcés, tout ça c'est bien ressorti.
Bah, en tant que chercheuse au Tchad, en tant que française chercheuse au Tchad, je peux dire que je suis toujours obligée de me justifier. Et je me suis souvent retrouvée face à des personnes qui me disaient « Ah, mais vous savez, au temps de la colonisation, au moins, on était respectés. » Et par exemple, les chefs traditionnels du Tchad, qui sont regroupés dans l'association des chefs traditionnels et qui sont parmi les personnalités les plus conservatrices du pays, étaient les premières à me dire « Oui, on regrette la colonisation. Au moins, le colon nous respectait, connaissait les coutumes, mais il faut comprendre de ce discours, au moins les colons nous utilisaient et faisaient nous les auxiliaires de l'administration, et du coup on était beaucoup plus respectés qu'aujourd'hui. Mais sinon, à part les chefs traditionnels, très souvent je suis obligée de me justifier pour dire je suis française, mais je ne représente pas la France, je ne représente pas l'ambassade, je suis indépendante, je ne suis pas là pour défendre les intérêts français. Car défendre les intérêts français, c'est aux yeux des Tchadiens, défendre les intérêts du régime en place, et je suis constamment obligée de me justifier. Et de dire qu'en gros, je ne suis pas pour Chirac.
Mais ça, en fait, c'est pas forcément vis-à-vis de la colonisation, parce que la plupart des gens qui posent cette question n'ont pas connu la colonisation. Donc c'est par rapport à la politique de la France d'aujourd'hui, quoi.
J'ai plusieurs fois été prise à partie par des personnes que j'avais interviewées ou avec qui je travaillais et qui m'ont dit « Écoute, Marielle, il faut qu'on te parle, on a un message à te faire passer, il faut expliquer en France comment on souffre du soutien de la France à notre régime, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. » Ce qui me mettait en tant que chercheuse dans une position très délicate, mais en même temps c'est un discours qui est de plus en plus important au Tchad et qui est peut-être très mal compris par les autorités françaises, notamment parce que la plupart des Tchadiens aujourd'hui sont très jeunes Et ce sont des gens qui sont nés après l'indépendance et qui ne se retrouvent pas dans les intérêts français, qui ne se retrouvent pas du tout dans le même perspective que leurs aînés, qui, eux, avaient pu partir se battre avec l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est face à une population qui n'a pas du tout le même passé et qui n'a pas du tout le même regard vis-à-vis des Français.
Tu pourrais nous dire comment s'est passée l'indépendance ?
L'indépendance, comme dans la plupart des pays d'Afrique francophone, a été décrétée. On a donné l'indépendance. Donc, personnellement, je pense qu'une indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Donc à partir du moment où on donne l'indépendance à quelqu'un, on peut la lui reprendre quand on veut. Et à mon sens, c'est ce qui se passe.
L'administration donc, qui prend la suite des colons est celle du président François Tombalbaye, qui ensuite s'est donné comme nouveau nom de Ngarta Tombalbaye, qui est un ressortissant du sud du pays et qui a appliqué une politique autoritaire qui a suscité de nombreuses résistances, notamment dans le centre, dans l'est et dans le nord du pays, dans les parties où la population est majoritairement musulmane. Et à partir de 1966, une rébellion transforme ces différentes révoltes et ces jacqueries paysannes en force politique, et c'est la création du premier mouvement rebelle tchadien, le FRONLINA, le Front de Libération Nationale du Tchad. Et à cette époque, il y a un grand décalage entre, d'un côté, des élites qui peuvent être proches des idées socialistes, avec notamment des intellectuels qui sont en France, qui m'ont dit, quand je les ai interviewés, que c'était les produits de mai 68, donc des intellectuels de toutes les régions du pays qui se battaient avec des idéaux socialistes et qui se battaient contre une dictature, et de l'autre, le FRONLINA réel, le FRONLINA des combattants, le FRONLINA des paysans analphabètes qui ont pris les armes, souvent très jeunes, pour se battre dans des conditions extrêmement difficiles, et des combattants qui souvent ont été manipulés par des chefs de guerre. Et ces intellectuels qui avaient été formés en France et qui étaient très sensibles aux idées de gauche, quand elles sont arrivées sur le terrain, m'ont dit « mais on a réalisé ce qu'était le FRONLINA. Le FRONLINA réel est pourri, et le FRONLINA intellectuel était à des années-lumière de ce qu'on a découvert ensuite ». Mais en tout cas, c'est à partir de là que le premier mouvement rebelle tchadien s'est créé.
Et est-ce que la France a joué un rôle dans la mise en place du pouvoir et après dans l'utilisation des rébellions?
Oui, puisque le pouvoir de François Tombalbaye était soutenu par la France. La France a essayé de le soutenir très longtemps, jusqu'au moment où Valéry Giscard d'Estaing, à cette époque, était au pouvoir, a en quelque sorte retourné sa veste et accepté un pouvoir partagé dans les années 79-1982, pour aller vite, c'était une période de guerre civile, jusqu'en juin 1982, quand Hissène Habré a renversé le pouvoir en place. En 1982, Hissène Habré prend le pouvoir, il fait face à des rébellions qui, cette fois-ci, apparaissent dans le sud du pays, et à diverses rébellions dans les différentes régions du pays. Il est soutenu par la France, mais aussi par les Américains, car il a une politique anti-libyenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été soutenu par les pays occidentaux. Jusqu'en 1990, quand la France change de camp et soutient Idriss Déby, qui est à la tête du mouvement patriotique du salut. Et Idriss Déby prend le pouvoir le 1er décembre 1990, à partir d'une rébellion qu'il a créée dans le Darfour. Et à partir de là, la France soutient le nouveau régime d'Idriss Déby, qui lui a été ensuite légitimé par des élections plus ou moins justes et plus ou moins régulières.
Entre-temps, il y a eu le conflit entre le Tchad et la Libye. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Rappelle-nous les dates déjà, parce que même moi j'ai oublié, c'est 80...
Bon, ça a commencé dans les années 70, ouais. Le début des conflits a commencé sous Ngarta, en 73, avec l'annexion de la bande d'Aouzou, si je me rappelle bien. Puis ensuite, les hostilités ont réellement commencé. Enfin, la Libye a occupé la bande d'Aouzou, selon certaines sources, disent que Tombalbaye aurait laissé la bande d'Aouzou à Kadhafi en échange d'une intervention, d'un appui militaire contre le FRONLINA. Mais bon, ça reste à vérifier. Toujours est-il que la bande d'Aouzou a été occupée jusqu'en 87.
Il faut bien voir qu'à cette époque, la Libye soutenait les mouvements armés tchadiens, soutenait notamment Goukouni Wedaï, qui est l'ancien président qui avait été renversé en juin 1982 par Habré. Donc pour Habré, il s'agissait de motiver ses troupes avec un enjeu national, récupérer la bande d'Aouzou, mais il s'agissait aussi de combattre les derniers rebelles tchadiens qui étaient toujours protégés par la Libye. Et pour les tchadiens... La guerre contre la Libye est la seule guerre qui a été menée contre un occupant extérieur, et c'est la seule guerre qui a véritablement fédéré les Tchadiens, hormis ceux qui étaient dans l'opposition armée soutenue par la Libye.
Donc, Idriss Déby arrive au pouvoir en 1990, il a un programme, il est soutenu. Quelles sont ses forces, sur quoi il s'appuie dans la société libyenne pour tenir jusqu'à aujourd'hui, puisque... Tchadienne, pardon, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui encore, il est au pouvoir et donc il a su se maintenir. Quel appui a-t-il dans la société ou à côté de la société ?
Déby est arrivé, je ne sais pas s'il est arrivé avec un programme, mais toujours est-il qu'il a rebondi sur le discours de la Baule, où Mitterrand a demandé à certains chefs d'État, ou sinon à tous, de mettre un peu d'eau dans leur vin. Dans les textes, il est arrivé, il a dit bon, qu'il a porté la liberté.
Ni l'or ni la liberté.
Voilà. Ni l'or ni l'argent, mais la liberté au peuple tchadien. Il y a eu une conférence nationale qui a été organisée au début des années 90, qui a réuni la société civile, les politico-militaires et les politiques. Il en est sorti des textes, et on s'est rendu compte très rapidement que les textes étaient inapplicables avec Déby, vu que le Premier ministre qui a été élu par la conférence nationale a dû... a dû démissionner au bout de 4 mois. Donc, il a instauré une démocratie de façade. Enfin, il s'est servi de la démocratie pour asseoir son pouvoir.
Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en 1990, l'arrivée de Déby au pouvoir a quand même suscité de grands espoirs parmi les Tchadiens, qui ont adhéré au moins dans un premier temps au discours de la démocratisation et des droits de l'homme. Et c'est vrai que pour la première fois, il y a eu des élections multipartites, il y a eu la création d'associations de protection des droits de l'homme, ce qui avait été totalement impossible au temps de Labré. Le problème, c'est que le parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut, a soit décrédibilisé les autres opposants en leur proposant tour à tour de participer au pouvoir, soit utilise divers moyens pour coopter les élites de l'opposition, et aujourd'hui l'opposition tchadienne est très très faible. La société civile est émergente, il y a des projets qui peuvent être intéressants, mais elle est elle aussi assez faible.
Oui, il a suscité beaucoup d'espoir en arrivant, donc, vu les promesses qu'il faisait, alors que sous Abré, on avait peur de son ombre. Donc, quand un chef d'État ou chef de guerre arrive et qui promet la liberté au peuple et qui l'autorise le fonctionnement des partis politiques, des associations qui se créent d'ailleurs, au début, on était content, on applaudissait. Il y avait des chansons au nom de Déby qui disaient « Déby est arrivé, on est libre, on va trouver du boulot ». Mais les gens ont très vite déchanté. Parce que le MPS est arrivé avec, sur son emblème, sur son drapeau, une houe et une kalachnikov. Ah oui, jusqu'aujourd'hui, c'est resté, avec une flamme dessus.
Parce qu'il y a un fond de socialisme dans l'appareil du politique kalachnikov. Le houe, ça fait un peu paysan révolté, quoi.
La Kalachnikov, je suppose que vu qu'ils étaient politico-militaires, ils ont mis la Kalachnikov au départ. Mais aujourd'hui, ils se sont transformés en parti politique. Logiquement, ils devraient retirer cet élément-là. Voilà. Mais 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, la Kalachnikov est encore là. Pour moi, ça dénote la nature du pouvoir.
D'accord. Il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés. La France, bien entendu, liera dans sa démarche tout cet effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté.
Des animaux de la forêt, les élections approchent. Faut les gagner, mise en place de toutes les commissions qui ont commission distraire l'opinion. N'y entre que des animaux de paille, ceux qui jouent les honnêtes subiront de représailles. On est à 100 jours des élections, il fait chaud, les animaux s'excitent sur des jurons. Recensement, manipulation, trucage de listes. Pas sûr de gagner, transparence hors piste. Les primates, eux, viendront saler la sauce. Ou je gagne au premier tour, ou je vous fauche. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victuailles à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victuailles à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Deuxième phase, campagne électorale. Je veux tous les marabouts ici dans la capitale, avec tous les chefs des tribus politiques qui n'ont pas de base mais qui veulent du fric. Moi, je ferai d'eux des pseudo-poids lourds, des faire-valoir pour gagner dès le premier tour. Corruption, intimidation des chefs traditionnels. Comme ça, j'aurai des voix à l'appel. Que ceux qui parlent le jour aient une valise la nuit, assurés du soutien solide et d'occidental chancellerie. J'aurai la victoire au bout de canon, que dis-je, au bout de mascarade d'élection. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victoires à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Par mes deux bourgs. C'est moi le roi des animaux de la forêt. Votez pour moi, votez pour moi. Sinon vous savez ce qui vous attend. Troisième phase, élection et résultat. La commission, elle, a donné le coup d'envoi, mais continuez toujours à délivrer des cartes. Ma police transformera tous les têtus en cartes. Bureau de vote sans l'opposition, vote multiple des mineurs en délectation. Et in fine, plus de votants que d'inscrits. Démocratie banania, voire alpha blondie. La commission boucle la boucle, la passe au conseil qui constate que les irrégularités font partie du jeu. Pas de regroupement, état de siège. Pas de joie à mon siège, vive mon piège. Mais gare à toi, animal qui conteste mes lois. Sache que j'ai le droit de vie et de mort sur toi. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victuailles à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victuailles à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Faites mascarade édulcorée de transparence, des victuailles à la faune pour qu'elle oublie ses souffrances. Qu'elle vote pour moi ou pas, je passe au premier tour. Tout sera blanchi par mes deux bourgs. Par mes deux bourgs. Deux bourgs. Ce sont des élections qui se passent dans de pseudo-démocraties où seul celui qui les organise les remporte. Vive la démocratie à chier.
Alors, juste avant cette pause musicale, vous avez pu entendre Carcassonne, qui est un artiste tchadien qui vit maintenant en France. Vous avez pu entendre le discours justement de François Mitterrand sur la démocratie en Afrique. Et juste après ce discours, qui date de 1990, Idriss Déby est arrivé au pouvoir au Tchad. Et Marielle et Abba nous expliquent comment s'organise le pouvoir d'Idriss Déby.
Il s'appuie, enfin, il s'est appuyé jusque-là. Au départ, il s'est appuyé très fortement appuyé sur son clan et sa garde républicaine, qui était, c'était la seule armée au Tchad d'ailleurs. Les vrais militaires, dans les casernes, on trouvait des gens qui marchaient en haillons, les vrais soldats. Alors que sa garde républicaine, qui est venue, soit ceux qui sont venus avec lui quand il est arrivé, soit ceux qui l'ont rejoint plus tard. Ils étaient très bien équipés, l'armée c'était eux. Donc c'est essentiellement un pouvoir basé sur son clan et sa garde.
Le fait qu'il y ait un clan autour de lui, qui manifestement lui assure son autorité politique, est-ce que ça joue dans la compréhension du Tchad d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que l'appartenance à telle ethnie, à tel groupe, est un facteur de compréhension de la société tchadienne.
Il y a effectivement une forte politisation de l'ethnicité et il y a certains groupes proches du pouvoir qui bénéficient de privilèges dont les autres ne bénéficient pas. Mais ce n'est pas forcément un gage ou une garantie pour rester au pouvoir, puisqu'on voit aujourd'hui que l'une des deux rébellions est issue de ce clan au pouvoir. Donc on a actuellement une première rébellion, celle du FUC qui a attaqué N'Djamena le 13 avril, qui elle est composée essentiellement de population Tama. Mais l'autre rébellion dont on parle moins, mais qui est également très importante, c'est celle du SCUD, qui elle est dirigée par des anciens proches de Déby, des gens qui sont issus de sa famille et qui ont été pendant 15 ans avec lui au pouvoir.
Au jour d'aujourd'hui, enfin, dans la situation d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que, si, que ce soit un problème de clan, parce que je pense que tout le monde est ligué contre Déby, y compris au sein de son propre clan. Ses proches conseillers, ses proches... ce qui faisait la force de son armée l'ont tous lâché. Donc aujourd'hui, je pense que la question va au-delà de l'aspect ethnique ou clanique.
Donc, tu as évoqué le FUC et le SCUD. Est-ce que, justement, au cours de ce régime Déby depuis 90, comment est apparu ces deux formes d'opposition et est-ce que tu pourrais nous les présenter un peu plus en profondeur?
Je pense que pour comprendre un peu ce qu'est le FUC, il faut revenir aux années 1990 et évoquer la trajectoire du leader du FUC, Mahamat Noor. Dans les années, en 1990, il a rejoint la rébellion du MPS avec Idriss Déby. Donc il était dans le même groupe militaire qui a pris le pouvoir. Il a été préfet, puis il a travaillé au ministère de la Défense. Mais comme de nombreux jeunes Tamas, c'est-à-dire c'est une ethnie qui est dans l'est du Tchad, il s'est senti marginalisé et il a repris les armes en 1994. Il a alors rejoint son oncle, qui s'appelle Mahamat Garfa, dans l'opposition armée, et ils ont fondé l'ANR, un groupe armé qui était dans le Darfour. En 2003, Mahamat Garfa, qui est à la tête de l'ANR, rallie le gouvernement de Déby. Aujourd'hui, il est ministre des Postes et des Télécommunications. Mais son neveu, Mahamat Noor, dont on parle beaucoup aujourd'hui, lui, reste dans l'opposition armée. Pendant des années, il reste avec quelques combattants à la frontière entre le Tchad et le Soudan. On entend peu parler de lui, mais c'est un fin stratège et il établit de bonnes relations avec les autorités soudanaises et il rend des services notamment à l'armée soudanaise. Du coup, quand Khartoum commence à se méfier du pouvoir à N'Djamena, Béchir décide d'armer ses opposants tchadiens et d'aider Mahamat Noor à prendre le pouvoir. Et c'est à partir de là que Mahamat Noor prend l'importance qu'il a aujourd'hui et qu'il crée en octobre 2005 le RDL, le Rassemblement pour la démocratie et les libertés, le mouvement qui est aujourd'hui le groupe le plus important au sein de la nouvelle coalition du FUC, du Front Uni pour le Changement. Et c'est cette coalition qui a attaqué le 13 avril N'Djamena. Donc là, on voit bien que c'est à la fois un mouvement qui est relativement nouveau, parce que c'est une nouvelle coalition qui s'est formée, mais les combattants sont des gens qui, souvent, ont été dans l'opposition armée depuis 10 ans, comme Mahamat Noor. Et ce sont des gens qui, pendant longtemps, sont restés à la frontière en cherchant un sponsor, en quelque sorte, et qui ont trouvé ce sponsor au moment où les relations diplomatiques entre le Tchad et le Soudan commençaient à avoir du plomb dans l'aile.
Et justement, comment se sont financées ces guérillas ?
Le FUC, les rebelles l'ont quasiment dit, est financé en grande partie par le Soudan. Et ce qui est à l'origine du conflit entre le Tchad et le Soudan, c'est plutôt la perte de confiance de Omar al-Béchir en Idriss Déby. Pendant longtemps, Omar al-Béchir se disait Idriss Déby est certes de la même ethnie que les rebelles, enfin que l'un des groupes rebelles du Darfour, mais il ne va pas s'immiscer dans le conflit. Peu à peu, pour diverses raisons, Béchir a perdu confiance en Déby et l'a considéré comme un frein à sa pacification violente du Darfour. Et à partir de là, il y a eu un revirement d'alliance et Omar al-Béchir a décidé de soutenir les opposants tchadiens réfugiés au Darfour, tandis que pour répondre à ce soutien du Soudan aux rebelles tchadiens, Idriss Déby a décidé de refaire une alliance avec les rebelles soudanais au Darfour.
Je pense que le soutien aux rebelles soudanais du Darfour a commencé, même si ce n'était pas Déby directement, il y a l'armée tchadienne qui était impliquée dans la rébellion au Soudan, bien avant le réveil du RDL ou de Mamad Nour.
Je pense que le principal problème, c'est que depuis longtemps, le Soudan se méfiait de l'éventuel soutien du pouvoir tchadien aux rebelles soudanais parce qu'ils sont du même groupe ethnique. Idriss Déby a essayé de donner des gages à Omar el-Béchir, par exemple en essayant de susciter des divisions au sein des rébellions soudanaises. Mais peu à peu, Omar el-Béchir s'est rendu compte que, comme tu le disais, il y avait des personnes très proches du régime tchadien qui finançait les rébellions soudanaises, même si ce n'était pas Idriss Déby lui-même qui pilotait ce soutien. Du coup, il s'est dit, tant qu'il y aura un pouvoir Zagawa au Tchad, on ne pourra pas lutter efficacement contre les rebelles du Darfour, et pour avoir les mains libres, il a décidé de faire pression sur Déby dans un premier temps en soutenant les rebelles tchadiens réfugiés au Soudan, puis il a fait ce projet de renverser Idriss Déby.
Pour continuer à explorer le spectre du président tchadien, est-ce qu'il y a il y a sa garde républicaine qui le soutient. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts économiques dans le sens où une bourgeoisie profite du régime qu'il a instauré et qui justement est-ce qu'il y a des intérêts proprement matériels à une classe privilégiée dans la société tchadienne?
Je ne sais pas si
une bourgeoisie, une grande bourgeoisie dans le Tchad.
Une bourgeoisie clanique peut-être, ou les quelques 2-3 ministres dont je ne citerai pas le nom, qui ont toujours servi sous lui, ou qui ont travaillé avec lui, qui se mettent à acheter des hectares et des hectares autour d'eux. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de bourgeoisie, d'une grosse bourgeoisie italienne qui profite du régime. Sous Abré, c'était... les Goran qui étaient les mieux nantis, sous début aujourd'hui, le capital est détenu par les Agawa.
Et encore une fois, une partie d'entre eux est aujourd'hui en dissidence.
Parce que comment est constitué l'appareil économique, s'il est aux mains de qui?
Il y a quelques grosses exploitations tenues par des anciens ministres ou des anciens directeurs de services, mais c'est une très, très infime minorité. En fait, la plupart des parcelles, c'est des micro-parcelles. 3-4 hectares, les chefs des villages qui ont entre 20 et 30 hectares, mais la plupart des parcelles sont des petites parcelles. Du côté des éleveurs, par contre, la plupart sont des nomades, donc ils n'ont pas de ranch proprement dit. Donc ils se déplacent au gré des saisons. L'importance économique, on va dire qu'elle n'est pas là dans ce domaine-là. Enfin, plus les rentes que procurent les cultures d'exportation, le pétrole ou je sais pas les grosses sociétés comme la coton tchad, là c'est là qu'est le problème. Qui a ces postes là, qui détourne quoi, c'est là le problème.
Et justement, qui fait quoi et quel est le rôle de la corruption justement dans la façon dont peut-être le pouvoir se maintient en place?
Il y a 3 ans, le Tchad n'était pas du tout classé par Transparency International. Aujourd'hui, on est premier. Donc ce n'est pas un hasard. Je ne sais pas comment fonctionnent concrètement les entreprises, mais il semblerait que l'argent du coton, des paysans travaillent, vendent du coton et ne voient pas revenir l'argent, ou bien on les paye avec 5-6 mois de retard. Entre-temps, où est passé l'argent, par exemple, on ne sait pas. Où passent les grosses sommes? Est-ce que ça passe dans les hammers, qu'utilise le président? Est-ce que ça passe dans les grosses voitures avec lesquelles roulent ses enfants ou les enfants de ses cousins ou les enfants des ministres? Ça, on ne sait pas. Enfin, personnellement, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a une rentrée d'argent. On n'en voit pas les retombées pour le citoyen lambda. Il y a des gens qui vivent comme s'ils vivaient ailleurs que dans le pays.
Le Tchad est actuellement dans une grave crise sociale. Le pétrole a suscité de nouveaux espoirs. Les gens pensaient qu'une manne pétrolière allait être déversée sur le pays et que tout d'un coup, ils allaient sortir de la pauvreté. Or, la situation a peu changé depuis octobre 2003, depuis que le pétrole est exploité. Bon, ça, c'est relativement peu étonnant. Mais il y a eu des grèves qui s'enchaînent, des grèves d'enseignants, des grèves d'étudiants, des grèves de lycéens, des grèves de magistrats qui ont duré pendant très longtemps. Et on peut dire que ces dernières années, à peu près tous les corps sociaux au Tchad ont été à un moment ou à un autre en grève.
C'est justement, la filière cotonnière, elle est nationalisée, elle appartient à qui?
À ce jour, la Coton Tchad, la société cotonnière, donc, est encore une société nationale et en voie de privatisation. Certes, mais elle est encore une société nationale. Maintenant, est-ce qu'elle est vraiment nationale ou est-ce qu'elle est aux mains d'un certain nombre de personnes? Je pencherais plutôt pour la seconde hypothèse.
Justement, tu parlais tout à l'heure des enjeux du pétrole. Est-ce que ELF ou les sociétés, par exemple, étrangères, ont un rôle important au Tchad?
ELF s'est retiré du projet en 1999, ce qui a suscité une grande colère du pouvoir tchadien. Il est difficile de dire exactement pourquoi ELF s'est retiré du consortium pétrolier. Ce qui est sûr, c'est que c'est à l'époque de la fusion avec Total, donc certaines décisions ont pu être mises en cause à cause de cette fusion. Ce qui est également sûr, c'est que c'est une période où les dirigeants de ELF et Total ont préféré investir dans le golfe de Guinée, investir dans l'exploitation du pétrole offshore, plutôt que d'investir au Tchad, dans un pays enclavé, et un pays où il fallait faire de lourds investissements. Et il est possible que ELF se soit retiré du projet, tout simplement pour des raisons économiques, de calcul, de rentabilité, plus que pour des raisons politiques. Mais là encore, je ne peux pas apporter une réponse définitive à la question.
Politique Majalba.
Jede, andere kolimi namiena.
Ande nyambare na wode fangana wa banyoro kulzona modu.
Jede, jede, andere kolimi namiena.
Yambarena udu fangana wa boyoro kuzona modu.
Jeje, jeje, andere kulimi namiena.
Ande nyambarena udu fangana wa boyoro kuzona modu.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel, nous sommes avec Abba et Marielle Debeau, spécialistes du Tchad. Et juste avant la pause musicale, nous parlions justement de ELF. Et maintenant, la question est de savoir quel est le rôle de la France-Afrique au Tchad actuellement.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine amitié qui lie le président Chirac et le président Déby. Mais après, il est difficile de savoir ce qui, dans les décisions qui sont prises au plus haut niveau, relève de relations privées ou de relations entre diplomatie.
À ce que je sache, c'est pas le Quai d'Orsay qui décide des interventions militaires à l'étranger. Donc s'il y a eu, lors des derniers événements, un tir de saumon, le chef de l'armée française, à mon sens, il semble que c'est le président de la République. Donc s'il a peut-être décidé d'aider son ami Déby en jouant son jeu...
Ben justement, continuons sur le rôle de la France, peut-être avec même un petit retour en arrière sur, justement, depuis la colonisation, comment s'est manifesté l'investissement, la participation de la France, des intérêts français dans ce pays.
Ben, comme je le disais tout à l'heure, la France a soutenu le premier président, François Tambalbaye, jusqu'au moment où Valéry Giscard d'Estaing a réalisé qu'il n'était plus possible de le soutenir et que les rebelles tchadiens étaient beaucoup trop forts. Dans ce cas-là, enfin, à ce moment-là, la France a soutenu Hissène Habré, qui a pris le pouvoir. À partir du discours de La Baule, où Hissène Habré avait tenu tête à François Mitterrand, la position française a encore une fois changé. Et cette fois-ci, c'est sur Idriss Déby que la France a misé. C'est-à-dire très concrètement que les services français ont donné des informations au MPS, donc au groupe dirigé par Idriss Déby, et l'ont laissé entrer dans la capitale et prendre le pouvoir à un moment où Hissène Habré a réalisé qu'il avait très peu de chances de gagner la bataille et il a préféré partir avec l'argent du trésor.
Bah, Habré, à la fin de la conférence de La Baule, a dit clairement que lui n'était pas prêt, qu'il n'était pas prêt à instaurer la démocratie, alors que c'était pour ça qu'il les avait convoqués, entre guillemets. Et lui, il a dit clairement, on n'est pas prêt pour la démocratie. Il a dit le 28 novembre, je pense. Non, une semaine plus tôt. Et le 1er décembre, il est parti. Alors que les combats ont commencé, vers le mois d'avril, beaucoup plus tôt, il a contenu la poussée des rebelles jusqu'à la conférence de La Baule. Et tout de suite après la conférence, il est parti, donc il y a eu un lâchage.
Il faut savoir aussi qu'Idriss Déby n'était pas inconnu en France, puisqu'il a étudié à l'école de guerre à Paris et qu'il avait de très bonnes relations avec certains militaires français qui l'ont soutenu.
Donc, le deal, si on suit bien cette affaire, c'est que donc Déby arrive au pouvoir pour instaurer un régime démocratique. Manifestement, il n'a pas tenu ses engagements. Et pour autant, l'armée française, enfin la République française, continue aujourd'hui à le soutenir. Une explication à cet attachement à la personne de Déby, au-delà de l'amitié qu'il peut lier avec le président de la République française.
En fait, je dirais deux choses. Tout d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que Déby n'a pas tenu ses engagements. Il les a tenus en partie. Il y a quand même eu l'instauration d'une démocratie, même si c'est une démocratie très très imparfaite, l'instauration du multipartisme, la création d'une société civile, et ça fait quand même une grande différence. Après, comme le disait un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le Tchad, Robert Wojtanowicz, il y a eu un processus de restauration et autoritaire. C'est-à-dire qu'on a à la fois une démocratisation avec une plus grande liberté de pensée et d'action, mais de l'autre, des processus parfois plus diffus, mais qui permettent au pouvoir de garder le contrôle sur le pays.
Depuis 96, depuis les élections de 96, les Tchadiens s'entendent dire par la France qu'il n'y a que Déby qui peut assurer la stabilité du pays. Depuis 96. Or, aujourd'hui... On est 10 ans plus tard, on ne sait pas s'il y a une stabilité. On ne sait pas s'il y a un État dans le pays. Et on continue à nous faire croire que c'est la seule personne qui peut assurer la stabilité du pays. sur quels critères
Parce que ça signifie quoi, la stabilité, en fait?
Pour les Français, il y a une sorte de théorie des dominos, où si le Tchad s'effondre, la Centrafrique suivra, puisque le général Bozizé a été soutenu par le président Idriss Déby quand il a pris le pouvoir. Mais je pense que c'est une façon beaucoup trop automatique de penser le problème, et en tout cas, la théorie des dominos n'a jamais été prouvée. Il y a un risque de déstabilisation de la Centrafrique, mais ce n'est absolument pas automatique. Non, la France continue de soutenir Déby, également parce qu'elle a plusieurs intérêts dans son régime, notamment le maintien d'une base militaire française. Aujourd'hui, il y a 1000 militaires qui sont en permanence au Tchad, et c'est une base militaire qui a aussi son importance dans le dispositif militaire français. Ensuite, le président Déby a rendu certains services à la France, par exemple en aidant le président Bozizé à prendre le pouvoir en Centrafrique.
Il a aidé aussi... Il semble qu'il a aussi aidé le président Sassou à renverser l'ancien président élu, lui, Pascal Issouba. Donc, bon. Aujourd'hui, au Congo Brazzaville, ouais. Oui, Sassou Nguesso, président de l'Union africaine aujourd'hui. On dit aujourd'hui que si Déby saute, il y aurait un effet domino en Afrique centrale, mais je pense que c'est sa présence qui fait l'effet domino. Aujourd'hui, au Darfour, on voit la main de Déby. Il a renversé Patassier en République centrafricaine, on en a pas parlé. Aujourd'hui, il crie au loup parce qu'on arme des rebelles contre lui. Il a la mémoire courte quand même.
Justement, aujourd'hui, il y a des élections au Tchad qui viennent de se dérouler. Est-ce que vous savez comment elles se sont passées sur le terrain?
Au dire des observateurs de la francophonie et de l'Union africaine, les élections ont été transparentes, démocratique, et il y a eu de l'affluence. Au dire de la FIDH, ce qui me semble le plus proche de la réalité, il y a eu, enfin, le taux de participation était très faible. Et j'ai entendu dire sur une radio ce matin, par un monsieur qui disait que 48 heures à l'avance, à Mongo, les gens remplissaient déjà les procès-verbaux étaient prêts à être envoyés à N'Djamena. Donc si c'est ça, des élections transparentes... Et puis les observateurs qui vont avaliser ces élections, on ne sait pas qui les conduit, qui leur indique les bureaux de vote à visiter. C'est des sujets à caution, quoi.
L'autre problème est que les principaux leaders de l'opposition démocratique n'ont pas participé à cette élection et ont prôné le boycott. Et il y avait donc cinq candidats. Et les quatre candidats de l'opposition sont des gens qui sont liés au parti au pouvoir parce qu'ils sont ministres ou parce qu'ils sont dans des partis qui ont fait une alliance avec le MPS.
Malgré le peu de valeur, le peu de crédit qu'on peut apporter aujourd'hui au scrutin, comment on peut relier je m'y prends mal, excusez-moi. Le lien entre le scrutin, malgré tout, le refus de l'opposition de participer à ce scrutin et les événements militaires, armés, rébellions auxquels on assiste, donc dans le Nord, mais également apparemment aussi dans une autre région.
Donc, il y a deux, voire trois principaux mouvements armés au Tchad. Il y a le FUC qui a attaqué récemment N'Djamena. Il y a le SCUD qui est composé d'anciens proches du président Déby, qui, eux, n'ont pas encore attaqué. Et il y a une vieille rébellion dans le nord du pays, le MDJT, qui est assez faible actuellement, mais qui pourrait éventuellement reprendre des combats si les circonstances étaient favorables.
Il y a la rébellion de Dasser, dans le sud ou le centre-sud du pays.
Et ils ont des liens entre eux? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent... Et l'alliance pourrait...
Ils ont donc essayé une première fois de créer une alliance entre donc, les deux principaux groupes, le SCUD et le RDL de Mahamat Nour. Mais cette alliance n'a pas pu tenir car c'était vraiment une alliance stratégique et ce sont des gens qui ont des intérêts très différents, des raisons de se battre aussi très différentes. Et cette première coalition n'a pas fonctionné. Ils sont en ce moment en train de discuter pour créer une nouvelle coalition. Mais je pense que les raisons qui ont conduit à l'échec de la première conduiront également à l'échec de la deuxième.
Et quel est le rôle du FMI et de la Banque mondiale sur la situation actuelle au Tchad ?
Comme tous les pays en développement, le Tchad est soumis au programme d'ajustement structurel qui amène le gouvernement à revoir certaines politiques. Notamment dans les années avant le programme d'ajustement structurel, il y avait un appui direct au secteur cotonnier. où il y avait des agents de l'État qui intervenaient directement. Là, on a retiré cet aspect-là. Sur d'autres secteurs, dans les domaines de la santé et de l'éducation, on demande un désengagement, on demande à l'État de se désengager de plus en plus. Mais ce n'est pas un problème spécifique au Tchad, ça. C'est le problème de tous les pays sous ajustement structurel.
Et c'est particulièrement grave d'empêcher le recrutement de nouveaux maîtres quand on voit l'état des écoles au Tchad, où on a facilement 50, 60, 100 élèves par classe. Dans le sud du pays, j'étais à Mbaïkoro, quand même une grosse commune du sud du pays, les élèves sont sous des hangars, ce qu'on appelle au Tchad des hangars, c'est-à-dire des sortes de cabanes en paille. Ils sont assis sur des troncs d'arbres, même pas sur des bancs, ils n'ont même pas de chaises. Et il y avait un monsieur assis sur un tout petit tabouret en dessous d'un arbre avec un cartable d'écolier sur les genoux. C'était le directeur du lycée. Et il n'a ni bureau, ni chaise, ni rien. Et donc d'un côté, la Banque mondiale demande de réduire le nombre des enseignants. De l'autre, elle fait face quand même à un manque cruel d'enseignants. Donc on est obligé de recruter des maîtres communautaires qui n'ont aucune, enfin qui ont une formation alternative comme enseignants. Et on se retrouve avec une pénurie grave d'enseignants. À Bardaï, dans l'extrême nord du Tchad, ce sont des militaires qui parfois enseignent aux élèves par manque d'enseignants. Et en juin 2000, la Banque mondiale avait accepté de participer au financement du projet pétrolier à condition que le Tchad s'engage à utiliser une grande partie des revenus pétroliers dans les domaines dits prioritaires, l'éducation, les infrastructures, la santé, le développement agricole. Ces engagements ont été tenus pour les premiers temps avec la création d'un collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers auquel participent des acteurs de la société civile. Sur le papier, tout est formidable. Sur le papier, c'est une grande innovation. Malheureusement, ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Déjà parce que l'argent du pétrole n'a pas toujours été utilisé comme il le devrait. Ensuite, parce que les membres du collège de contrôle de surveillance des revenus pétroliers n'ont pas toujours eu les marges de manœuvre nécessaires pour contrôler l'utilisation des revenus. Et enfin, et surtout, parce que le Tchad vient de modifier la loi et vient d'inclure dans les secteurs prioritaires la sécurité. La Banque mondiale a réagi en coupant, en gelant l'argent qui était sur des comptes offshore à Londres. Pour faire simple, il y a eu une négociation entre la Banque mondiale et le gouvernement tchadien. Finalement, la loi a été modifiée et le Tchad a dû faire quelques concessions. Mais grosso modo, on va dire que la banque a cédé devant les volontés du gouvernement tchadien.
Voilà, justement, après ces élections, comment on peut envisager l'avenir du Tchad ?
Le pire des scénarios sera un partage du territoire entre plusieurs factions armées, d'un côté le RDL, de l'autre le SCUD, avec un pouvoir N'Djamena qui ne maîtriserait plus, enfin qui ne contrôlerait plus le pays, et je pense que ça c'est un des pires scénarios. Ensuite, du point de vue français, il pourrait y avoir aussi des exactions contre les Français, de la même manière qu'il y en a eu en Côte d'Ivoire, parce que le ressentiment contre les Français est très très fort à N'Djamena, et que les choses peuvent assez rapidement dégénérer. Et je n'ai pas l'impression que les autorités françaises aient vraiment pris la mesure du ras-le-bol populaire des Tchadiens.
Je ne crois pas trop à l'hypothèse de morcellement du pays. Par contre, Déby a dit « je discute avant ou après les élections, pas pendant ». Il a organisé ces élections. Il va les gagner de toute façon. Et bon, l'opposition démocratique est disposée au dialogue. La société civile propose une sorte de forum ou avec une transition au bout. Ce serait peut-être une occasion à saisir, mais est-ce que Déby accepterait de le faire ? S'il est acculé, je pense qu'il n'aura pas trop le choix.
Je pense aussi qu'il faut sortir du face-à-face entre les militaires et les rebelles et qu'il faut inclure dans un dialogue politique les autres acteurs, car le Tchad de 2006 n'est pas le Tchad de Hissène Habré. Il y a d'autres acteurs politiques, tels que les partis politiques, tels que la société civile. Et je pense que l'une des voies de sortie serait d'engager un dialogue avec tous ces acteurs.
Et parmi ces acteurs, il y a la France. Et une question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'où, d'après vous, la France est-elle prête à aller pour soutenir Déby ?
J'aimerais bien le savoir.
Avant de conclure, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir du Tchad ?
Oui et non, la situation en ce moment est assez préoccupante. Il y a de grandes chances qu'elle se détériore encore. Mais en même temps, il y a quand même un brin d'espoir. Quand on discute avec les gens, on se rend bien compte que l'immense majorité de la population veut la paix, que même des gens qui ont été pendant des années dans des mouvements politico-militaires, aujourd'hui veulent aussi la paix. Et si un dialogue politique peut être instauré, si on arrive à sortir du face-à-face entre l'armée et les rebelles, je pense que oui, là, il y a effectivement un avenir plus pacifique pour le Tchad. Et ce qui est important, c'est aussi de bien voir qu'au Tchad, on n'a pas seulement un problème entre des militaires et des rebelles qui ont des programmes politiques différents. On a aussi un problème de réinsertion des anciens combattants. On a aussi un problème de restructuration des forces armées. Et là, je pense que la communauté internationale a un rôle très important à jouer. Et là, il ne s'agit plus de soutenir Pierre, Paul ou Jacques, mais il s'agit de financer des programmes importants pour réformer les secteurs les prioritaires au Tchad, la sécurité, la justice, mais aussi l'éducation, la santé. Et je pense qu'en passant par là, on peut effectivement penser à un avenir meilleur pour le pays.
Plutôt optimiste, parce qu'à mon sens, on ne peut pas tomber plus bas qu'on est actuellement. Donc ça ne peut qu'aller mieux, avec ou sans débit.
En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le problème et les enjeux des problèmes qu'il y a actuellement au Tchad. Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci. Son Excellence, Monsieur le Président, les finances vont bien vu que nous-mêmes on est devant. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai achevé votre 60e villa. Si c'est l'argent là, il y en a beaucoup. Mais on fait semblant. Les fonctionnaires, c'est comme les étudiants. Ils font du bruit. Oh, nous-mêmes, on est mendiants. Quel chien va laisser son gigot? Si ça passe par nous, on voit clair dans le gombo. Excusez-moi, monsieur le président, j'employais le langage du travaillement en France. Le bilan du mois, bénéfice large. On se fait 3 millions après le bavardage. Merci.
Dites-le à qui veut bien l'entendre.
Je mange, qui mange, il mange, on mange.
On va faire comment? Vous n'avez qu'à démerder.
Son Excellence, le ministre de la Défense.
Ouais, mais... c'est moi. Si t'avais fermé ta gueule, abruti, t'aurais pas perdu la vie, ça c'est vrai. Si t'avais pas manifesté, étudiant, je t'aurais pas éliminé, ça c'est con. Qui connaît tous vos secrets? Ça c'est moi. Qui c'est qui couche avec qui? C'est encore moi. Qui connaît la vérité et qui voudrait la cacher? Qui sait où est Ben Laden?
Voilà, je suis mon alpha.
Physiquement, je suis blindé. Et ma voiture est blindée. Mes garde-corps sont blindés. Mon compte en banque est blindé. Et le parleur blindé. Le ministère blindé. Ma porte est blindée. Et même ma femme, je dis blindé.
C'est ça qui est la vérité.
Le ministre de la Santé.
Oh, tu sais, toi, il faut te soigner. Hein. Tu es gravement malade. Hein. Ça va pas.
Maillon fort de mon gouvernement, je sortirai votre santé du sous-développement. J'ai réfléchi avec le cerveau qui est dans ma tête. Cérébralement, j'ai trouvé comment vous soigner gratuitement, facilement, sans médicaments, scientifiquement.
Oh, lui, il rime seulement.
Un petit bisou au chef du gouvernement, absolument, abstrégiquement. Ouais, il y a
rien compris.
À qui veut bien l'entendre?
Je mange, tu manges, il mange, on mange.
On va faire comment? Vous n'avez qu'à démerder.
Le ministre de la Culture.
Le pétrole de notre pays, c'est la culture.
Ça, en tout cas, c'est vrai.
Parlant de ça, elle s'exporte bien, je vous assure.
Bien sûr.
La lutte contre la piraterie reste notre priorité. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec les pirates pour la maintenir en toute légalité.
On dirait que tu es fier de toi.
Sinon, il y a pas mal de choses qui font la fierté de notre pays. Comme le salon international de...
Oh, c'est bon, c'est bon.
Comme le festival panafricain de...
Oh, vraiment, c'est pas la peine, c'est bon.
Comme le site touristique de...
On connaît. Non, toi aussi, quand même, faut laisser comme ça.
Son Excellence, Président de la République.
Oh, taisez-vous là, c'est quoi?
Avant de commencer, conjuguez-moi le verbe manger à toutes les personnes.
Vous mangez, monsieur le président.
Je vois que vous avez bien appris votre leçon. Allez, profitez de l'indicatif.
Vous mangerez, monsieur le président.
Décidément, vous vous surpassez aujourd'hui. Tant que vous conjuguerez bien, je ne dérangerai point. Merci, vous êtes bon, les gars.
Je mange, tu manges, il mange, on mange.
Le reste, hein.
Vous n'avez qu'à débrouiller.
Je mange, tu manges, il mange, on mange.
Le reste,
c'est quoi? Vous n'avez qu'à démerder.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. Et quand on est du monde, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. Alors ce soir, pour dire des trucs sur le rock, pousser des boutons, dire des dates, mettre son micro près de la bouche des gens qui parlaient des antifascistes russes dans une ambiance proche de celle du salon de l'automobile. Et puis pour parler du Tchad, on avait donc une paire de Juliette à micro, Alexandrine, Guillaume et ses groupes Kato, et puis Jérémy et ses godillots de l'autre côté de la vitrine. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front. On recevra les gens de la revue Afrique 21. Voilà, d'ici là, on vous abandonne dans les bras des Codes du Capricorne. Bonne soirée, ciao.